le journal Jérôme Jadot. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. À la une ce matin, quand un système d'alerte est lui-même jugé alarmant, un rapport sénatorial pointe les défaillances du dispositif d'alerte attentat, application mobile inopérante et sirène considérée comme obsolète. Frappé Pyongyang au porte-monnaie après ses tirs de missiles, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote une série de sanctions pour priver la Corée du Nord d'un tiers des revenus de ses exportations. C'était une des dernières voix chavistes à oser s'opposer à Nicolas Maduro au Venezuela. Luisa Ortega, procureur général, est limogée. Première décision hautement symbolique de la toute nouvelle Assemblée constituante. À suivre également un cargo écolo, projet d'un franco-canadien qui rêve de relancer le transport de marchandises à la voile. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports, l'éclair qui s'éteint sans étincelle à Londres. Usain Bolt ne termine que 3e de son ultime 100 mètres. C'est un rapport qui va faire siffler les oreilles au ministère de l'Intérieur. Rapport sur le système d'alerte de la population en cas d'événements graves, notamment d'attentats. Rapport signé du sénateur Jean-Pierre Vogel, dont Le Monde a révélé la teneur. L'application mobile SAIP, lancée après les attaques de novembre 2015, en prend notamment pour son grade. Aurélien Tirard.
Le système SAIP censé faire apparaître sur les smartphones des notifications d'alerte est d'abord trop peu téléchargé. Seulement 900 000 quand il faudrait un seuil minimal de 5 millions de téléchargements selon le sénateur. Ensuite, ce système n'a jamais bien fonctionné. La seule fois où l'application a été activée, le soir de l'attentat de Nice, le message d'alerte a été envoyé avec 2 heures de retard. Autre exemple de défaillance grave, l'application a été activée à l'occasion d'une prise d'otages présumée dans le quartier des Halles à Paris, alors qu'il s'agissait d'un canular téléphonique. Depuis, la préfecture de police de Paris privilégie la communication via Twitter. Pour le sénateur, le meilleur système reste celui utilisé au Japon, Pays-Bas et États-Unis, soit l'envoi d'un SMS, mais les opérateurs anticipent des surcoûts pour adapter leurs équipements. Finalement, c'est la sirène, celle qui sonne tous les premiers mercredis du mois, que le gouvernement veut améliorer. Pourtant, le système jugé obsolète date de la fin de la Seconde Guerre mondiale et ces sirènes n'ont jamais véritablement servi. Informé des conclusions du rapport, le ministère de l'Intérieur répond que la réflexion est toujours en cours.
Et à 8h20, on parlera de la politique antiterroriste avec l'appel lancé par les secrétaires de la conférence des avocats du barreau de Paris cette semaine. Nous aurons en invité Olivia Ronen et Marc Bailly.
La tour Eiffel, évacuée avec un peu d'avance sur l'heure de fermeture. Hier soir, un homme muni d'une arme blanche a tenté de forcer un des contrôles de sécurité. Il a été maîtrisé et arrêté sans qu'il y ait de victimes. Ses motivations restent pour le moment inconnues. Gérard Collomb précise son plan pour les migrants. Dans les colonnes du JDD, le ministre de l'Intérieur annonce la création de 3500 places d'hébergement pour l'an prochain. Il a également donné consigne au préfet d'accentuer les reconduites dans leur pays des Albanais qui viennent en France sans visa.
8h04 sur France Inter, la suite du journal. Jérôme Jadot à l'étranger, l'arme économique dégainée contre la Corée du Nord.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier soir une série de sanctions visant Pyongyang. Sanctions après les 2 tirs de missiles nord-coréens du mois de juillet et alors que le pays continue de développer son programme nucléaire. Les sanctions devraient priver le régime $1 milliard sur les 3 qu'il tire de ses exportations, notamment dans le secteur du charbon, du fer et de la pêche. Marco Volter, il a fallu pour cela que les États-Unis obtiennent l'aval de la Russie et de la Chine.
Aujourd'hui est un bon jour pour les Nations Unies, s'est réjouie l'ambassadrice américaine Nikki Haley, qui a insisté sur l'ampleur inédite des nouvelles sanctions. Nous venons de prouver au régime nord-coréen que ses actes irresponsables et irréfléchis peuvent lui coûter très cher. Mais si cette résolution est un grand pas en avant, c'est loin d'être suffisant. La menace d'une dictature nucléarisée et hors la loi est toujours présente. Nikki Haley s'est félicitée de l'unanimité de ce vote et a spécifiquement remercié la Chine, principal allié de Pyongyang, de quoi arrondir les angles puisque Pékin est régulièrement accusé par le président Donald Trump de fermer les yeux face au danger nord-coréen. Un danger devenu planétaire selon le représentant de la France à l'ONU, François Delattre.
Les tirs des dernières semaines nous ont fait franchir un palier supplémentaire en démontrant de manière claire la détermination de Pyongyang à mettre toute la communauté internationale à la portée de ses missiles.
Enfin, la Chine a profité de la tribune pour lancer un appel au calme, y compris à la communauté internationale. Déployer des systèmes antimissiles chez le voisin en Corée du Sud serait contre-productif et ne ferait qu'alimenter la surenchère. À New York, Marco Volter pour France Inter.
C'est une décision qui éloigne sans doute encore un peu plus le Venezuela des standards démocratiques. À peine réunie, la toute puissante Assemblée constituante a relevé hier de ses fonctions la procureure générale Luisa Ortega, l'une des principales opposantes au régime qu'est en train d'instaurer le président Maduro, Isabelle Laberry.
En 2014, Luisa Ortega est encore une chaviste pur jus, figure historique du parti au pouvoir. Peu à peu, pourtant, elle prend ses distances avec Nicolas Maduro, dénonce ses dérives autoritaires et devient la bête noire du régime. Vendredi, elle demande à la justice de suspendre l'installation de l'Assemblée constituante en raison des accusations de fraude pesant sur le scrutin. Hier, dans la matinée, des unités de la garde nationale prennent position autour du ministère public et l'empêchent d'accéder à son bureau. La procureure générale accuse le pouvoir de corruption, elle le qualifie de dictature. Quelques heures plus tard, la constituante annonce sa destitution pour violation de la morale publique.
De la ciudadana Luisa Ortega Díaz comme titulaire du cargo de fiscal général de la République.
Dans la foulée, le Mercosur, marché commun de 5 pays sud-américains, décide de suspendre le Venezuela pour rupture de l'ordre démocratique. Un acte symbolique, Caracas est déjà exclu de l'organisation pour raisons commerciales, mais qui témoigne de l'isolement dans lequel le pays s'enfonce chaque jour davantage.
Hier soir, Leopoldo López, un des chefs de file de l'opposition, a lui été libéré de prison, mais de nouveau assigné à résidence à son domicile.
Et à 8h06 sur France Inter, on fait un bond dans le passé, à moins que ça ne soit un saut vers l'avenir, Jérôme Jadot.
En montant à bord d'une goélette presque centenaire qui va reprendre du service tout à l'heure à La Rochelle, cap sur Montréal, une transatlantique qui n'a rien d'une virée de plaisance, mais tout d'un transport commercial, 12 tonnes de marchandises à bord, un cargo vert porté par le vent, que la société franco-canadienne Port Franc entend bien développer, Julien Fleury.
Sur le quai, Clément Sabourin observe le chargement du cargo, un peu stressé.
J'arrête de fumer dès que le bateau est en mer.
Cette liaison La Rochelle-Montréal, c'est son idée, lui qui cherchait un moyen écolo d'acheminer les produits français qu'il vend déjà au Québec. Mais 12 tonnes de marchandises à la voile, ça ne va pas vraiment de soi.
On est les premiers à faire ça à cette échelle-là, donc c'est bête, mais toute la chaîne logistique n'est plus ajustée pour ça.
Stress également à bord de l'Aventour, cargo allemand de 1920, totalement remis à neuf pour ce type d'aventure, sous la direction de Ben.
Tout le monde a travaillé beaucoup pour les dernières deux années de faire le bateau. Maintenant, tous les champagnes, les vêtements,
tout est dans la cale.
Oui, ça c'est un moment très heureux pour nous.
Dans la cale également, 2600 paires de charentaises Rondino. Pierre Rondino, jeune repreneur de l'entreprise familiale, a été l'un des premiers à y croire.
Nous, on fabrique un produit, c'est de la laine qui est cousue avec un fil de chanvre, selon des méthodes artisanales. C'est complètement dans nos valeurs.
Avec forcément un surcoût lié à ce mode de transport, lui aussi très artisanal, surcoût que Clément Sabourin espère bien voir baisser rapidement.
Il faut monter en volume. Notre but, ce n'est pas de faire de la com. Le but, c'est de faire du volume décarboné pour accélérer la transition énergétique.
Clément Sabourin qui mise sur l'innovation. Il travaille déjà avec une start-up nantaise sur des super voiliers capables d'acheminer l'équivalent de 300 conteneurs presque aussi vite que leurs concurrents à moteur.
Un nouveau départ de feu en Haute-Corse. 100 hectares de végétation partis en fumée à Calenzana hier soir. La route conduisant à l'aéroport de Calvi a dû être coupé pendant plusieurs heures. Deux pompiers et une personne âgée ont été légèrement blessés.
On en parlait tout à l'heure et on termine avec ça pour le journal avec notre invité de 7h15 avec une très longue balade, Jérôme.
Oui, cela fait 5 ans qu'il se promène dans l'espace, plus précisément à la surface de Mars. Le robot Curiosity a commencé à explorer la planète rouge le 6 août 2012 à un rythme d'escargot, seulement 17 km parcourus. De petits pas pour Curiosity, mais de grands pas pour la science, estime Sylvestre Maurice de l'Institut de recherche en astrophysique et de planétologie à Toulouse.
Curiosity nous a appris l'histoire de Mars, c'est-à-dire une histoire du passé d'il y a plus de 3 milliards d'années où nous avons démontré avec cette sonde que Mars était une planète habitable. C'est un résultat fondamental, un résultat qui, à mon avis, change ma façon de regarder l'univers. Avant, il y a 3 ans, je regardais l'univers en disant « Oh, je n'ai qu'une planète habitable, c'est la Terre ». Eh bien maintenant, j'en ai deux. J'en ai deux, c'était il y a plus de 3 milliards d'années, Mars et la Terre. Mars a perdu son habitabilité, elle a perdu ses paramètres physiques et chimiques qui font que la vie peut se développer. Et là où c'est important, c'est que maintenant je vais regarder l'univers où il y a des milliards de planètes, je me dis bon, il y en a deux chez nous qui furent habitables, il y en a probablement quelques milliards dans l'univers qui sont habitables.
Initialement prévu pour 2 ans, la durée de vie de Curiosity a été prolongée à nouveau par la NASA, au moins encore pour une année supplémentaire, de quoi sans doute avancer encore de quelques mètres.
Merci Jérôme Jadot, on passe au sport.